One. Ladies and gentlemen.
Mesdames et messieurs, pouvons-nous commencer ce panel sur l'actualisation de la gouvernance Internet? Soyez les bienvenus dans cette salle. J'aimerais vous présenter notre modérateur cet après-midi. Nigel au micro. Donc, notre modérateur est membre du conseil d'administration, Marjorie Fortry. Merci beaucoup, Nigel. Merci à tous de votre présence cet après-midi pour cette troisième journée de dialogue et débat très intéressant et vivant sur la gouvernance Internet. Laissez-moi vous présenter les membres du panel et vous dire un petit peu comment va se dérouler cette réunion. Nous allons mettre à l'épreuve aujourd'hui un format un petit peu plus différent pour vous donner des informations actualisées sur l'une des réunions les plus importantes sur la gouvernance Internet de cette année, avec un format questions et réponses avec une participation active de la salle. Cela étant dit, nous avons besoin de vous dire qu'il y a une petite différence par rapport aux réunions précédentes. Nous espérons avoir le temps aujourd'hui pour nous concentrer sur les principales réunions qui vont avoir lieu en 2014 et les remettre dans le contexte de toutes nos activités concernant la gouvernance Internet. J'aimerais brièvement vous présenter nos experts sur la gouvernance Internet et les membres du panel. Nous accompagnons aujourd'hui Peter Major. Où est-il? Peter, donc. Peter est président de Ungstad, du groupe de travail des Nations Unies. Samantha Dickinson, elle est chercheure éminente, chercheure et blogueur sur la gouvernance Internet et sur les femmes dans les questions technologie et information. Ivory Dory, qui représente la société civile, chercheur et écrivain et participante très active à l'ICANN du côté de la société civile. Shangatai est un directeur de programmation et de projet. Également Marcus Collard à ma gauche, vice-président politique publique de Internet Society et également coordinateur exécutif du secrétariat de l'IGF. Également, et il va nous faire une introduction, Tarek Kamel, conseiller de l'ICANN pour l'engagement, considéré comme le père de l'Internet en Égypte, ainsi que l'un de nos principaux interlocuteurs de l'ICANN avec les gouvernements dans le monde. Merci de votre présence. Et Andrés Piazza, à ma droite, de l'Argentine. Andrés est fonctionnaire des affaires publiques de l'ACNET et avocat. Donc deux avocats avec moi aujourd'hui. Nous allons voir ce qui s'est passé cette année, quelles sont les principales réunions pour nous et pour la gouvernance Internet. Tarek, vous avez la parole. Merci. Bienvenue à tous sur cette séance sur la gouvernance Internet, modérée par Olga. Avant de commencer cette séance, il est important de dire ce qui va se passer cette année par rapport à la gouvernance Internet. J'aimerais d'abord remercier Nigel et son équipe qui nous ont aidés avec Olga à organiser cette séance parce qu'on l'appelle une séance sur la gouvernance Internet qu'on fait lors de toutes les réunions de l'ICANN parce que les autres journées, il y a d'autres réunions, mais il s'agit de la séance qui a lieu à chaque réunion de l'ICANN sur la gouvernance Internet. Donc, que va-t-il se passer aujourd'hui au niveau de la gouvernance Internet? D'abord, il y a beaucoup de changements qui se produisent. Nous allons aux réunions de l'UIT, beaucoup d'autres réunions pour défendre notre modèle multipartite et pour dire que l'Internet fonctionne sur le modèle WSAS et qu'il n'y a pas de place pour les changements, pour les améliorations. Et au cours des derniers mois, et après qu'il soit clairement apparu que le monde était divisé et demandait des changements, il y a eu une réunion à Bali l'année dernière de l'IGF. Donc, il a fallu créer une deuxième voie, je l'appelle ainsi, une deuxième voie d'événement organisée et soutenue par la communauté multipartite. On commence avec Net Mondial, avec un panel de haut niveau. L'ancien ministre de la Suède des Affaires étrangères et des initiatives de la part de la communauté multipartite qui crée une voie supplémentaire à celle des Nations Unies qui a été utile à l'UIT et dans d'autres événements importants. En 2014, il faut renforcer les initiatives telles que Net Mondial et d'autres événements qui vont dans la même direction, OneNet en est un, sans oublier le dialogue sur la gouvernance Internet qui a lieu à l'UIT, à l'IGF et au sein du groupe de travail sur la coordination et au sein du groupe de travail qui aura lieu en juin avant l'Assemblée. Donc, il faut continuer à défendre notre point de vue sur la scène internationale dans ce que l'on appelle le mécanisme conventionnel, les fora conventionnels, pour nous exprimer en tant que communauté et continuer également à participer activement au débat qui a lieu mondial. Ça va commencer avec Net Mondial, mais également suivi par d'autres réunions. La déclaration concernant l'IANA a ajouté une nouvelle dynamique à tout ce dialogue. Ça ne doit pas forcément concentrer tous nos débats aujourd'hui, mais ça ajoute à la complexité des questions qui existaient déjà et ça ajoute une dimension supplémentaire à ce débat. Voilà ce que je voulais dire à titre d'introduction. 2014 est une année intéressante, 2015 aussi. Et comme l'a dit Fadi dans sa cérémonie d'introduction, nous avons l'opportunité de démontrer au monde que la communauté multipartite fonctionne et peut être à la hauteur de ce que la communauté mondiale attend de nous. Merci beaucoup et je vous souhaite tout le succès dans votre réunion. Merci Olga. Merci Tarek. Olga au micro, merci Tarek. Cette année est réellement unique parce qu'il y a une réunion IGF, etc., courante, mais il y a aussi beaucoup de réunions de l'UIT, telles que la réunion plénipotentiaire et la réunion la semaine prochaine. Donc c'est dans ce contexte qu'on devrait se demander que va-t-il se passer dans cette année par rapport aux activités à venir. Écoutons le point de vue de chacun des membres du panel par rapport au lien qui existe entre ces activités et le rôle spécifique de l'ICANN et de la communauté ICANN. Comment définiriez-vous les intérêts de l'ICANN dans ces activités? Comment le définiriez-vous? Je vais passer la parole aux membres du panel, en commençant par Marcus. Marcus au micro, merci. C'est un plaisir pour moi, même si je suis un peu impressionnée de prendre la parole en premier. Bonne question. Merci, Tarek, pour cette introduction très complète. Effectivement, c'est une année chargée. Et également, c'est une année importante. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait 15 ans qu'on l'attend. Donc, il s'agit d'une opportunité pour la communauté de relever ce défi. Non seulement en raison de l'annonce concernant la NTIA, l'année dernière, nous avons eu des nuages par rapport au débat qui était en cours. Et aujourd'hui, il faut rétablir la confiance. Et l'annonce de la part de la NTIA a montré cela. Une fois que un gouvernement fait confiance à la communauté, alors c'est pour nous une incroyable opportunité, mais il faut bien faire les choses. Nous avons une date butoir qui s'approche. Donc, il y a un travail à accomplir qui va impliquer beaucoup de discussions, beaucoup de consultations et qui a d'ores et déjà commencé. Mais s'agissant des autres conférences, celle de l'UIT à Dubaï la semaine prochaine, cela offre l'occasion de revenir là où nous étions à la fin 2012 et va donc nous offrir l'occasion de dire au monde que l'Internet fonctionne et que il doit fonctionner avec les pays en développement, que l'Internet veut aider les pays en développement à créer leur propre contenu pour améliorer leur propre expérience Internet. Nous espérons que cela va avoir un impact positif. Il s'agit d'une conférence essentielle parce que cette conférence plénipotentielle est une conférence où les gouvernements peuvent prendre des décisions, peuvent modifier le mandat de l'UIT. Notre espoir, c'est que le mandat va se concentrer sur ce qu'est censé être la mission de l'UIT. Et c'est une tâche importante que l'Internet puisse disposer d'un mandat solide pour l'UIT. Ensuite, le sommet IGF à Istanbul, il s'agit d'une conférence qui n'aura pas pouvoir pour prendre des décisions pour changer la situation. Il s'agit d'une réunion qui a un pouvoir de reconnaissance. Il peut identifier les problèmes, permet de partager les meilleures expériences, les informations, et peut aider les gens à comprendre des questions qui sont complexes et difficiles. Des questions d'ailleurs qui ont été abordées cette semaine lorsque l'on a parlé des fonctions de l'IANA. S'agissant de la gouvernance Internet, les gens ont toujours tendance à surdimensionner cela. Les gens ne savent pas quoi faire de ce terme. Donc, il faut également essayer de faire en sorte que ce sujet soit clair et simple et compréhensible pour tous. C'est important si nous voulons que l'Internet continue d'être ouvert, stable, sûr et résilient. Et cela a un impact sur l'utilisation quotidienne que l'on fait de l'Internet. Voilà pour mon introduction. Olga, merci. Vous avez souligné l'importance du processus multipartite dans le contexte des réunions multilatérales qui auront lieu cette année. Donc, du point de vue de la société civile, quel est le rôle de l'ICANN dans l'ensemble de ces réunions? Avery au micro. D'abord, et veuillez m'excuser, mais ma sécurité en dépend, je dois bien dire que je ne suis pas représentante, absolument pas représentante de la société civile. J'ai participé à la société civile et j'ai participé au groupe de travail sur la société civile, mais je ne suis absolument pas représentant de la société civile. Je me définirais comme une personne ONG. Ça s'est produit plusieurs fois déjà cette semaine. On vient me voir et on me dit: qu'est-ce que le modèle multipartite? Qu'entendons-nous par multipartite? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la gouvernance Internet multipartite? D'abord, je ne veux pas revenir sur les définitions, mais je voudrais revenir sur ce que l'on fait. Parce que c'est un processus en perpétuelle évolution qui nous permet à nous tous, parties prenantes, que l'on soit gouvernement, ONG ou pas, de participer aux décisions, aux prises de décisions qui sont nécessaires pour atteindre les rôles de l'ICANN ou de la société concernant l'Internet. Et je le disais, c'est un processus en perpétuelle évolution. Et cette année réunit plusieurs conférences. L'ICANN a plusieurs rôles, peut-être que a deux rôles essentiels, et peut-être que l'annonce de concernant l'IANA ajoute un troisième rôle. Dans un sens, c'est une partie prenante, c'est l'une des parties prenantes parmi les nombreuses parties prenantes qui a un rôle à jouer pour essayer de faire en sorte que l'Internet soit ce que la société veut que l'Internet soit. Et dans ce processus, il faut que l'ICANN défende ce rôle et cette mission qu'il remplit. L'ICANN a également un rôle en termes d'évolution des processus en raison des questions qui lui sont posées. Et là, il faut être très prudent parce qu'en donnant un rôle à l'ICANN, l'ICANN est censé comporter de manière neutre. Et c'est un rôle un peu confus encore parce qu'il y a un contrat avec l'IANA. L'ICANN a l'impression d'être propriétaire de l'IANA. Or, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, on s'aperçoit que cette position n'est pas partagée par tous. Et lorsque l'on regarde les autres fonctions de l'IANA, qu'il s'agisse des CCTLD, de la zone racine et de ses opérateurs, eux ont d'autres points de vue sur l'IANA et sur son lien et ses relations avec l'ICANN. Donc l'ICANN doit être neutre par rapport à la définition des futurs processus. Toutefois, il s'agit d'un acteur et d'une partie prenante. Donc, il faut que l'ICANN protège tout en évitant de protéger. Donc, laisser les choses ouvertes essayer d'être ouvert et également prendre le risque de laisser les choses se faire et que l'IANA fonctionne pour tous. Donc, ça fait partie du rôle de l'ICANN. Montrer ce modèle ascendant en le vivant.
Merci, Ivy. La dualité de l'ICANN, dit la personne sur le panel, de la perspective de l'ACNIC, la reconnaissance du rôle de l'Internet et de la gouvernance de l'Internet. Quelle est votre perspective? Merci, Olga. Dit le représentant de l'ACNIC, mais pas des autres RAR. Mes collègues de RAR sont ici. Je ne veux pas parler de leur part, mais nous nous coordonnons les uns entre les autres. Nous avons considéré ce que devait être le rôle de l'ICANN. Nous avons aussi établi nos demandes vis-à-vis de l'ICANN, nos attentes. Le rôle majeur en ce moment, le sujet est chaud, c'est l'IANA et la transition, les fonctions de l'IANA. Nous attendons, et donc c'est une coïncidence que non, Fadi a demandé de l'aide. Nous voulons que ICANN devienne le facilitateur et pas celui qui mène le process, ou qui prenne la tête du processus, pardon, processus d'évolution. C'est un jalon dans notre évolution. Nous travaillons avec les autres organisations, sur toutes les organisations qui participent à l'infrastructure de l'Internet dans cette évolution. Et l'année dernière, il y a eu un moment chaud aussi dans la transition. Et ceci est une coïncidence. Maintenant, je voudrais aussi suivre ce qu'a demandé aussi Avril, ce que les pensent du rôle que l'ICANN devrait juste être inclus dans le processus, mais devrait être une entité mondiale qui pourrait être donc plus mondiale de façon efficace et de faciliter le processus pour sa communauté. Nous faisons partie de cette communauté, d'accord, mais pour la communauté mondiale, les autres parties prenantes qui ont fourni des contributions, d'endroits différents dans la gouvernance de l'Internet. Il y a de plus en plus de réunions qui sont liées aux télécoms, à la gouvernance Internet, ou la communauté Internet à travers le monde. Si vous regardez tous les mois, il y a plus d'une fois par semaine, d'ailleurs, il y a des réunions pertinentes sur ce sujet. Cela explique le sentiment dans tous les pays, dans toutes les régions. Et nous essayons d'être présents dans ces discussions. Et lorsque nous faisons cela, et moi je suis aussi membre de groupe de travail dont Peter est le leader, nous sommes inclus dans la discussion ITU, dans l'IGF LAC et dans ces discussions. Et lorsque nous prenons partie à ces discussions, nous essayons de coordonner. Nous avons des intérêts différents, quelquefois, des opinions et des intérêts différents, mais nous voulons le même Internet et nous voulons les mêmes résultats. Nous coordonnons avec l'ICANN au niveau régional, au niveau mondial, et avec tous les RAR. Et nous allons pour sûr essayer d'aider le rôle de l'ICANN en tant que facilitateur sur les processus qui démarrent, sur la détermination de comment le processus devrait fonctionner. Et c'est une autre chose qui me... Je suis fière d'être ici quand on regarde. Aussi, on continue à dire que la deuxième nom de l'ICANN. Des fois, quand vous venez à une réunion ICANN, moi, je suis allée à beaucoup de réunions ICANN, Mais des fois, on oublie que les adresses IP, c'est une fonction, aussi une fonction d'ICANN. Les communautés sont plus focalisées sur les noms de domaine. Bien sûr, c'est naturel, mais aussi cette transition IANA nous aide à comprendre l'importance des politiques sur les nombres et le parti opérationnel, notre parti. Parce que, comme Greg l'a dit dans l'autre session, c'était intéressant pour moi, je n'y avais pas pensé, IANA. IANA se préoccupe des chiffres, des nombres, donc c'est important de garder ça en tête. Je pense qu'il a quand même un bon rôle pour faciliter les choses, que ainsi deviendra plus mondial, réussi au niveau de la mondialisation de leur structure, et nous serons là pour soutenir. La personne sur le panel. Merci, Andrés. Andrés, vous le verrez au meeting IOS, la préparation multilatérale des Amériques, la position des Amériques vis-à-vis du monde, cette conférence. Si vous voulez lui parler hors ligne de ce processus, je suis sûre qu'Andrés sera content de préparer. Shanghai. Quel est le rôle de ICANN dans ce mélange de réunions internationales? Un peu une vue de l'ICANN, d'une troisième perspective, de la perspective du secrétariat de l'Internet, de l'IGF, pardon. Donc, je voudrais faire un commentaire. Le secrétaire général des Nations Unies a émis une déclaration très positive, prenant note des développements importants et en encourageant tout le monde à travailler d'une façon multipartite, ainsi pour les gouvernements, les sociétés civiles, le secteur privé, toutes les communautés, pour s'assurer que l'Internet soit libre et sécurisé. Donc, vraiment à bord pour trouver une solution et participer dans le discours. Pour les autres, ce qui s'agit des autres questions, est-ce quelle est la reconnaissance mondiale de l'ICANN dans la gouvernance de l'Internet? Je pense que dans la communauté, le noyau de la communauté, oui, c'est très fort, mais dès que vous sortez de ce noyau, de l'ICANN, c'est pas très clair. À travers l'IGF, je parle beaucoup de gens qui sont des utilisateurs d'Internet et business qui ont à voir avec l'Internet, qui utilisent l'Internet, pas seulement des gouvernements, mais et aussi dans les gouvernements. Ils ne sont pas très clairs sur le rôle de l'ICANN. Maintenant, bien sûr, il est de plus en plus reconnu. Le rôle de l'ICANN est de plus en plus connu. Ce qui est important pour l'ICANN, c'est que c'est une organisation qui montre comment ce modèle multipartite fonctionne et nous observons ça avec la perspective du secrétariat de l'IGF. Et c'est très important. Je suis sûre que cela va continuer à s'améliorer. Nous allons continuer à apprendre de ce modèle. La personne sur le panel. Merci, Shanghai. Le débat global sur la gouvernance de l'Internet apporte de la visibilité pour le modèle multipartite, ce processus, donc, c'est très intéressant. Sam, je ne vais pas parler de IANA. Je vais parler de la plus grande vue d'ensemble. Il y a un lien entre l'ICANN et la discussion mondiale de l'Internet qui prennent place, et je vais parler de WSIS. Il y a plein de choses. Les discussions sur les objectifs du WSIS, le processus WSIS dans le modèle multipartite. Nous partageons nos succès, mais nous devons aussi prendre la responsabilité pour les déficits. Nous devons aussi regarder cet écosystème et de voir quelles sont le rôle que nous pouvons jouer. Pour moi, beaucoup des problèmes dans la CAN pourraient être... Quel est le mot que je cherche? Que nous pouvons peut-être atteindre un consensus d'une façon plus simple, plus facile, si tout le monde comprenait bien la variété de problèmes qui ont un impact en ce moment. Il y a un peu une division entre le gag diabolique et puis avec les problèmes des droits de l'homme et ainsi de suite. Et le comité des bureaux d'enregistrement et des opérateurs de registre. Nous devons faire des affaires. Donc, il faut plus que nous impose des choses. Les gens s'attendent qu'il y ait un dialogue plus important, qu'il y ait une meilleure compréhension sur les problèmes comme les droits de l'homme. Et surtout sur le point de vue du GAC, de comprendre comment la société civile est concernée par les choses comme la publication. Si vous êtes dans un pays où l'homosexualité, par exemple, est poursuivie, devinez, vous allez peut-être avoir des problèmes si vous ne faites pas attention à ces problèmes. Il faudrait peut-être mieux comprendre les problèmes, par exemple, du cybercrime, pas seulement écouter au GAC, mais aller dans ces autres environnements, discuter de ces problèmes, et peut-être se rendre compte pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a des raisons. Donc, si on comprend le contexte d'une façon plus large, on pourrait mieux comprendre les problèmes techniques et en parler plus facilement. Sur le panel, l'intervenant, Olga, pardon, oui, Steve, c'est Steve? Non, de la part du GAC, ils sont en phase de version préliminaire au GAC en ce moment. Pour parler de votre question, de votre première question, le rôle de l'ICANN et la perception de l'ICANN dans le système AIG, donc de gouvernance Internet. Moi, j'ai toujours travaillé avec des représentants de l'ICANN dans mon groupe. Et donc, j'ai commencé avec l'amélioration de l'IGF et ensuite dans ce groupe présent. C'est un groupe multipartite dans les Nations Unies, au sein des Nations Unies. Et c'est une commission de la science et de la technologie. C'est un groupe multipartite. Nous avons des représentants de la société civile, de la communauté technique et des organisations internationales. Et bien sûr, des gouvernements. Et apparemment, nous travaillons très bien ensemble. Je n'ai pas dit que nous avons des résultats, mais nous travaillons très bien, assez bien. Quand il s'agit de l'ICANN, moi, je vois qu'un dans ces groupes étant traité également, ils ont contribué, ils sont reconnus. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a une approche un peu curieuse comment se fait-il que ICANN est inclus, participe dans les problèmes de gouvernance Internet. Normalement, il devrait être concerné par les noms et les chiffres, les nombres et les noms. Et on se rend compte qu'il est bien normal qu'il soit participe à ces problèmes de gouvernance Internet, comme Sam l'a dit, par exemple avec le WIS. Il y a plein de pièges, il y a plein de choses, de conséquences inattendues. Donc, ICANN devrait participer, devrait être inclus. Si j'ai encore le micro. Je pouvais garder la parole, je ferais deux remarques en plus, additionnelles. En revenant avec ce que disait Tarek, une partie du processus qui a commencé avec les Wicked. Je suis complètement d'accord avec cela. Seulement, nous avons des hauts et des bas. Avec le Wicked, nous avions des forums pour la communication qui... était un soulagement. D'ailleurs, Marc va être d'accord avec moi. Les gens pouvaient prendre la parole de façon égale et arriver à des accords. Et puis, nous avons aussi un environnement un peu différent. Et nous verrons... Autre chose, où nous devrions faire les choses de meilleure manière, et c'est d'arriver à un accord commun. Et j'espère que la coopération va être améliorée par ce groupe de travail, que ça va être un peu un cas de test pour voir comment Nous pouvons travailler avec donc une approche multipartite dans l'environnement de les Nations Unies. Merci, Peter. Avec cette introduction, dit Olga, Olga au micro, nous allons passer à des questions plus détaillées avec des thèmes et des sujets qui continuent à être soulevés dans toutes ces réunions, ces sessions où nous allons participer, des réunions où nous allons participer cette année. Donc, un endroit, la meilleure façon de commencer, c'est au départ et au début. Et nous voulons considérer on va parler des principes généraux. Si vous devez considérer une gouvernance qui évolue, un panorama qui évolue, en aiguisant, disons, ce qui pourrait être des thèmes ou des principes qui devraient être des principes de guidage et qui pourraient guider vers des considérations, des problèmes. Quelle est votre perspective sur les trois principes fondamentaux qui devraient être acceptés ou qui devraient être pris en compte dans la considération d'une gouvernance de l'Internet qui évolue? Avri, au micro. En parlant des principes au début, les droits de l'Internet, les droits de l'Internet, les droits de l'homme, c'est la même chose. Et cela ne veut pas forcément répondre à la question, bien sûr, parce qu'il y a ce sont des droits en concurrence mais nous devons toujours garder ce principe en tête. C'est que les droits de l'homme et les droits de l'Internet sont interchangeables. La deuxième chose, s'agit des parties prenantes. Et en fait, les parties prenantes, fondamentalement, sont égaux et ils ont tous méritent tous un rôle à la table et la capacité, le droit de parler et de participer dans les processus de politique, de développement de politique. Mais on doit admettre aussi que les parties prenantes ont des rôles variés, des responsabilités. Cela dépend des tâches qui doivent être accomplies, le contexte, le temps de la tâche. Alors, qu'ils soient égaux au niveau du temps, dans les problèmes variés, ces rôles et les responsabilités, bien sûr, sont variables et changent. Donc, l'égalité ne veut pas forcément dire qu'ils sont les mêmes. Et la dernière chose auquel je pensais, c'est nous devons nous rappeler que lorsque nous parlons de la gouvernance de l'Internet et des parties prenantes, c'est-à-dire qu'aucune partie prenante peut définir les rôles et responsabilités des autres parties prenantes. Eux-mêmes, chaque personne d'entre nous ne peut dire « Oh, votre gouvernement, votre rôle unique, c'est de faire ça. » Ou la société civile, vous ne pouvez faire que telle ou telle chose. Nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de rôles, beaucoup de responsabilités, beaucoup de parties prenantes derrière, au-delà des trois que le gouvernement définit. Donc, en gardant ces trois choses en tête, alors que nous commençons à regarder, observer les problèmes auxquels nous faisons face, cela nous garde un petit peu les pieds sur terre. Olga, merci, Avri. Vous avez souligné des principes d'inclusivité dans le dialogue de toutes les parties prenantes. Donc, Marcus, en suivant sur cette idée, sur ces principes primordiaux, comment est-ce que vous assurez un processus de dialogue qui prend en compte toutes les communautés, les multiples communautés dans l'ICANN et alors que nous participons dans des meetings, dans des réunions internationales, alors que nous allons vers des réunions mondiales. Marcus, oui, je pense lorsqu'il s'agit de toute l'institution Internet, bien sûr, en incluant ICANN, un bon travail a été fait pour être inclusif et les politiques ouvertes. Ce processus de politique ouverte est vraiment très bien, très bon. Mes principes les préférés, c'est que ça doit être ascendant, ouvert et inclusif. Personne a le droit d'être autour de la table et de prendre la parole. Je pense que cela permet à la communauté d'aller de l'avant et ça permet d'écouter des voix dissidentes, mais cela fait partie du jeu. La démocratie peut être un peu brouillon, tout cela. Donc, je ne pense pas que l'ICANN en particulier a un problème avec ça. En fait, on pourrait continuer sur cette voie. Olga, continuez sur la voie. Et c'est bien. Une portion du panel peut poser. Vous pouvez poser des questions à cette portion du panel. Vous pouvez prendre le micro ou nous faire signe. Nous voulons une participation de tous. En prenant donc en compte tous les principes fondamentaux et fondamentaux, alors que nous avons des défis tous les jours dans l'ICANN, dans les processus multipartites, pour nous engager, participer dans ce processus d'inclusivité, il y a d'autres institutions qui pratiquent ce type de système multipartite. Shangatang et Peter peuvent parler de la perspective d'autres organisations qui opèrent de cette manière. Et il semble que cela devient très populaire, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le multipartisme, en prenant même dans des systèmes très traditionnels.
As you wish, Shangatai.
Shangatai.
Elle c'est Olga.
Oui, je viens d'écouter vos commentaires. Et je réfléchissais lorsque l'on a créé le premier groupe de travail sur les technologies et il y a eu un conflit de la part du gouvernement qui ne voulait pas laisser les autres parties prenantes participer dans la salle. Et ça a été réellement une lutte pour faire participer ces parties prenantes au groupe de travail. On s'en souvient bien. Nous avons eu une discussion qui a commencé à 18 heures et ça a été véritablement une avancée significative qu'on peut qualifier de populaire. Mais une fois que vous réussissez à percer, la deuxième étape, finalement, est assez simple. On a suivi le même schéma. Les membres du groupe provenaient du gouvernement et les autres parties prenantes étaient qualifiées d'invités. Et dans la deuxième partie, ils étaient encore invités, mais étaient traités comme des membres. Ça, c'était dans la théorie. Dans la pratique, on essayait de les traiter comme un véritable groupe multipartite. Donc, il y a aussi des initiatives très intéressantes au sein de l'UIT qui permet à d'autres parties prenantes de participer, qui proviennent des universités et des secteurs techniques, de participer à différents groupes de travail. Donc, je crois que c'est un processus qui est en cours. Chuang au micro, oui. Dans le système des Nations Unies actuel, il y a un rôle traditionnel multipartite qui est en place. Et il y a eu un précédent qui a commencé avec WISIS. Et il y a eu un groupe de travail pour la gouvernance Internet qui, me semble-t-il, a été l'un des premiers groupes au sein des Nations Unies qui reposait sur le modèle multipartite et qui a fait office de modèle pour les groupes de travail qui ont suivi. Et ça a été un groupe très intéressant. Et en fin de compte, on a réussi à obtenir un document et les donations de ce que signifie la gouvernance Internet. Marc, c'était là. C'était le coordinateur de ce groupe de travail. Et ça a été finalement mon premier contact avec ce qui m'attendait à l'IGF. Et comme Peter l'a dit, une fois que cela a été fixé, on a vu que ça s'est installé aux Nations Unies, à l'UIT. Et nous avons eu... Il y a beaucoup de groupes au sein des Nations Unies qui sont de plus en plus multipartites. Peut-être qu'on n'en est pas encore au niveau parfait et que tout attend ça. Avery sera certainement d'accord. Mais les choses s'améliorent. À mesure qu'on travaille et qu'on avance, les choses s'améliorent. C'est en tout cas le cap qui est suivi aux Nations Unies. Merci, Shangatai. Olga au micro. Donc, ce modèle multipartite est en place à l'ICANN et dans d'autres forums, non seulement en termes de participation, mais sur le fait de savoir qui peut prendre la parole sur quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire dans ce domaine. À un moment donné, il faut s'arrêter et dire, voilà, comment mesurer les résultats? Comment mesurer donc les résultats au niveau des plénipotentiaires? Lors de la prochaine réunion plénipotentiaire, que considérez-vous comme étant un résultat positif dans le sens le plus large? Alors, à un niveau très général, je dirais que l'un des résultats, ce serait de mettre un terme à ces silos et de mettre un terme aux divisions entre une certaine catégorie de participants et les autres. Si l'on peut continuer à supprimer ces barrières, on va pouvoir gagner. Plus on va pouvoir avoir un échange de points de vue entre les participants, mieux on va pouvoir se comprendre. Et de manière plus spécifique, j'ai trois témoignages de réussite. D'abord, les États membres ont décidé de rouvrir les travaux du groupe de travail sur les questions relevant de la gouvernance Internet. Deuxièmement, reconnaissance croissante des organisations Internet dans les résolutions du texte principal, et je n'arrive pas à me relire. Et accord sur le fait qu'il ne va pas y avoir chevauchement de travail entre les différents groupes de travail. En novembre dernier, lorsque le questionnaire qui a maintenant été envoyé au gouvernement et on en a obtenu des réponses, il y a eu un débat sur le chevauchement entre les travaux des groupes de travail. Et si les membres de l'UID voulaient le faire, libre à eux, mais c'était un chevauchement. Donc, si tout le monde est d'accord pour se respecter et respecter les autres organes des Nations Unies, de l'ICANN, etc., je pense que c'est un excellent résultat. Olga au micro. Merci, Sam. Donc, pour passer aux questions à nous poser, pourquoi y a-t-il autant de débats actuellement? Parce qu'on a tendance à entendre que les gouvernements ont beaucoup d'intérêt par rapport à la plus grande attention qui est accordée à l'Internet et à la politique autour de l'Internet. Et qui devrait avoir un plus grand rôle au sein de l'ICANN et des fonctions de l'ICANN? Donc on devrait se poser la question de savoir s'il s'agit d'une idée ou d'une mauvaise compréhension. Si c'est une idée et un problème, comment pourriez-vous y répondre pour se faire. Je vais demander à Peter et à Avery de répondre. Je crois que ce n'est pas une idée ni une mauvaise compréhension, mais c'est plutôt une évolution naturelle. Le nombre d'utilisateurs Internet et d'applications qui existent font qu'il y a un plus grand nombre de problèmes qui se posent par rapport aux politiques publiques. Et je pense que les gouvernements s'en sont rendus compte, ou plutôt qu'on les a obligés à se rendre compte qu'ils avaient un rôle à jouer. Parfois, ils commencent à jouer ce rôle. Parfois, ils en font trop. Ça dépend beaucoup des gouvernements. Mais il est indéniable qu'effectivement, ils ont un rôle à jouer. Savoir si leur idée est la bonne, ça, c'est une autre affaire. Et comme nous tous, ils sont en processus d'apprentissage. Parce que le cyberespace, le monde de l'Internet est si complexe que l'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait suffisamment d'experts au sein des gouvernements pour faire face à cela. Les gouvernements ont leurs propres méthodes, processus traditionnels, et parfois, et bien souvent, ces processus ne s'adaptent pas de la meilleure manière à la situation actuelle. Donc il faut se montrer patient aussi. Les autres parties prenantes doivent se montrer patientes. Olga au micro. Nous avons une question à distance. Avery au micro. En fait, par rapport à cette question, moi, je pensais qu'aucune partie prenante ne pouvait décider pour les autres. Donc, si les gouvernements pensent qu'ils ont besoin de jouer un plus grand rôle, qui suis-je pour dire qu'ils ne doivent pas? Si je dis que la société civile doit jouer un plus grand rôle, qui est l'UIT pour me dire que non? Si on voit ce qui se passe à l'ICANN, je ne sais pas dans quelle mesure l'ICANN pourrait avoir un plus grand rôle, mais imaginons. Il y a certainement un rôle que l'ICANN pourrait jouer. Par exemple, un rôle peut-être par rapport à la réglementation, à la régulation. Un plus grand nombre de gens de la part des gouvernements pour participer. Je pense que cela pourrait enrichir nos débats, nos discussions, comme on l'a vu sur la question de l'application de la loi, de rétention des données. On a vu que nos échanges se sont approfondis et enrichis. Donc, effectivement, c'est intéressant du point de vue des rôles et des responsabilités que l'on pense qu'ils devraient remplir. Et je dis toujours que les gouvernements sont les protecteurs de nos droits de l'homme et ils ont assumé ce rôle. Si les gouvernements remettaient en cause cette protection des droits de l'homme, la situation sera tout autre. Donc il y a des rôles et responsabilités qui incombent à chacun et il faut continuer à en débattre pour faire participer de plus en plus de gens et élargir le débat et faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre tous. Merci, Avery. Je crois que nous avons une question à distance. Je vous écoute. Oui, question de John Curran qui s'adresse à Marcus. Vous avez dit qu'il y a des principes de multipartite de base tels que l'ouverture et la transparence qui sont très importants. Donc, savez-vous s'il y a une norme commune ou une liste de normes de ces principes? Et deux, savez-vous si toutes ces organisations se sont engagées à mettre en œuvre ces principes? Merci, Marcus au micro. Merci de cette question. Nous avons effectivement fait cette présentation à Net Mondial au Brésil qui a soumis une liste de principes, principes de base, d'ouverture et de transparence et d'inclusion. Et je crois savoir que toutes les organisations se sont engagées à respecter ces principes, savoir s'ils parviennent à les mettre en œuvre ou pas, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, l'intention et l'engagement sont là. Merci, Marcus. Donc, considérant la préparation de ces réunions internationales qui vont avoir lieu cette année, il y a une certaine dynamique, un certain rythme qui est en train d'être lancé et il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces réunions. Peut-être que ça nous a pris de court que l'annonce de la NDA par rapport au contrat de l'IANA. Donc on doit peut-être prendre un moment pour voir dans quelle mesure cela a une incidence sur ces réunions internationales. Dans quelle mesure cela va modifier l'ambiance, l'atmosphère, le contexte dans lequel ces réunions vont avoir lieu. Et là, je me tourne à nouveau vers Marcus. Et peut-être question dans la salle, Peter ? Oui, si vous le permettez, je crois que votre question est très intéressante et je ne veux pas interrompre le débat, donc je vais attendre pour poser ma question. Marcus au micro. Oui, bien sûr, cette annonce est récente, donc bien entendu, elle va avoir un impact positif sur l'atmosphère, parce que lorsqu'on le voit comment ces discussions sur la gouvernance Internet ont commencé au début de l'année 2003, à l'époque, ces discussions tournaient autour du rôle de l'ICANN et du gouvernement nord-américain. Et on ne savait pas bien de quoi il s'agissait, on ne savait pas de quoi il était question. On parlait du DNA, du DNS, on ne savait. Il y avait très peu de. Il y avait très peu de connaissances, on confondait DNS et ADN. Donc il y avait une sensation générale que les États-Unis contrôlaient l'Internet. Et d'ailleurs, ça a été clairement vu lors de la crise en Irak. C'est là qu'on a commencé à parler de la gouvernance Internet et ça a eu un grand impact sur le gouvernement nord-américain et ça a eu un impact, évidemment, une incidence sur la décision qui a été prise par rapport à l'annonce de la NDA. Et ça a finalement été très positif. Parallèlement, cela peut pousser un gouvernement à vouloir occuper l'espace laissé par le gouvernement nord-américain. Or, ça n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement nord-américain a dit qu'il n'allait pas accepter qu'un gouvernement assume ce rôle. C'est positif. Mais il faut être bien conscient du fait qu'il y aura une tentative de remplacer le gouvernement nord-américain par un autre gouvernement. Et pour lutter contre cela, on doit, en tant que communauté multipartite, montrer que nous sommes à même d'avancer et de montrer la voie en faisant participer les gouvernements, bien entendu. Parce que les gouvernements font partie de ce processus. Ils font partie de ce modèle multipartite. Alors, Peter Jennings. Je suis irlandais et citoyen de l'Internet. Alors, ces deux termes, Internet et gouvernance. Pourquoi associer ces deux termes ? Il s'agit de deux termes juxtaposés. Donc, lorsque l'on parle de gouvernance Internet, il me semble très utile de mieux définir les aspects de la gouvernance Internet dont on parle. Si l'on parle du rôle de l'ICANN dans la création d'un Internet mondial interopérationnel qui est en dehors d'une structure gouvernementale et d'un territoire en particulier, alors ça, c'est l'un des aspects de la gouvernance de l'Internet. Et c'est l'aspect dont on parle ici à l'ICANN. À cet égard, le modèle multipartite qui inclut les gouvernements est extrêmement important. Les gouvernements doivent participer, mais aussi la société civile et d'autres parties prenantes doivent participer. Parce que, dans le fond, c'est quelque chose de mondial. Cela va au-delà des intérêts nationaux. Si l'on parle de la gouvernance en termes de l'application de questions qui relèvent de la législation, de la propriété intellectuelle ou juridique, alors je pense que là encore, le modèle multipartite s'applique, mais dans ce cas-là, clairement, ces aspects reposent davantage sur un aspect territorial et national. Et là, les gouvernements ont un rôle plus grand. Si vous divisez les choses en ces termes, et si vous en êtes d'accord, alors vous avez affaire à deux débats différents. Et de mon point de vue, la gouvernance Internet repose réellement sur un modèle multipartite avec un engagement beaucoup plus limité des gouvernements. S'agissant des autres aspects, alors, en tout cas, c'est mon point de vue. Je divise les choses en ces termes. Olga au micro. Devrions-nous parler de la gouvernance dans le contexte de l'Internet? Avery.
Avery, Doria. Bien sûr, comme je l'ai dit au départ, la partie gouvernance correspond à comment qu'on amène toutes les opinions des parties prenantes dans le processus et on en arrive à des solutions qui vont bénéficier la société. Et que tous ces utilisateurs deviennent d'accord. Donc, éventuellement, vous devez avoir une communauté de parties prenantes, beaucoup de comités de parties prenantes, et le travail qui les rassemble, qui les amène, un consensus ICANN ou un consensus d'autres. Et donc, c'est ce processus d'en arriver à une décision de comment aller de l'avant. Il n'y a pas de décisions techniques qu'il y a. Toutes les décisions techniques ont des impacts sociaux. Il y a des implications dans les politiques. La gouvernance, c'est que lorsqu'on rassemble tous ces acteurs pour déterminer la façon d'aller de l'avant. Donc, je pense que vraiment qu'il y a un rôle pour la gouvernance de l'Internet. Olga, oui, nous avons... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut répondre à la question? Non, Marilyn. Marilyn Kane, je pensais venir pour donner une réponse. Donc, Marilyn Kane... Et je suis, j'apprécie l'opportunité d'être dans cette salle avec tellement de gens intéressés sur le sujet, des gens qui partagent l'intérêt dans la gouvernance de l'Internet. Quelle que soit la définition que nous acceptons nous-mêmes, je vais dire deux choses. En réponse à votre question, Olga, aux États-Unis, je ne sais pas si ça va se traduire, vous allez peut-être m'aider, mais nous, on dirait, en réponse à votre question, est-ce qu'on devrait même parler de gouvernance Internet? Je dirais que ce train est parti de la gare. Et en fait, Il y a d'autres trains qui arrivent derrière. Donc, si cela reflète le point que vous avez soulevé, à un moment, durant le sommet mondial sur la société d'information, je regarde, je vois des gens comme David Barris et d'autres de l'unité constitutive commerciale qui eux-mêmes étaient inclus dans ce problème. Nous avons essayé d'intéresser nos PDG, nos exécutifs. Nous leur avons demandé d'aller à cette réunion à Genève et nous ne pouvions pas rentrer dans la salle de réunion. C'était bien difficile. Nous étions dans les couloirs. Nous prenions le café avec les délégués, mais nous ne pouvions pas rentrer. Et dans une période de 4 ans, il y a un intérêt commun qui a été créé, sinon un point de vue de définition commun, disons. Et je pense que cela, si nous devions créer une phraseologie, disons, nous-mêmes, une définition de nous-mêmes, nous n'aurions peut-être pas choisi le mot gouvernance Internet. Nous, en tant que personnes qui viennent du business, nous ne pouvons pas traduire cette expression très bien, même en chinois d'ailleurs. Mais on nous a donné cette phrase à la suite d'un processus très compliqué. Et moi, je suis très enthousiaste du fait qu'à la fin du WISIS, la chose que le WISIS a fait, c'est de mettre en place, de rassembler les préoccupations, les intérêts dans tous les leaderships, auprès de toutes les leaderships, qu'ils soient les gouvernements, la société civile, et etc., à propos de l'Internet. Il fallait donc apporter un environnement dans lequel tout le monde pouvait être confortable. Et après, donc, on s'est mis au travail jusqu'à... Et maintenant, récemment, il n'y a pas très longtemps, quelque chose de magique s'est passé. Au lieu d'avoir à écrire des documents de 5-6 pages pour des exécutifs, des ministres, de pouvoir expliquer pourquoi l'Internet devrait avoir de l'intérêt pour eux, c'est plus facile donc maintenant de commencer cette conversation. Nous devrions donc vraiment être heureux de ces résultats. C'est vraiment un moment d'opportunité pour tous entre nous, l'ICANN, tous les gens qui sont intéressés aux problèmes plus larges de gouvernance Internet. Donc, encore une fois, ce train va assez vite. Il faudrait peut-être qu'on trouve un moyen de le ralentir, utiliser des bus dans certains moments, mais il serait donc bon de définir les questions et de travailler sur les réponses. Olga, je pense que nous avons des commentaires de Marcus là-dessus et ensuite nous prendrons une autre question. Marcus, oui, sur la gouvernance de l'Internet, Evry et Marilyn en ont parlé déjà. Il faut comprendre qu'il y a une critique intellectuelle du terme. Ce terme est venu de l'extérieur. Nous devons... collectivement, nous essayons de comprendre la définition. Nous savons que la gouvernance de l'Internet, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est la notion abstraite de mener donc le show, d'être à la tête du... Les gouvernements ne peuvent pas faire ça eux-mêmes. C'est un petit peu la définition de la gouvernance de l'Internet. Je pense que c'est un accomplissement remarquable. Les gouvernements ont accepté cela, ils ont reconnu cela. Ils ont vu qui devait pouvoir, que tout le monde devait y participer, toutes les parties prenantes. Cela ne pouvait pas être fait si facilement. C'était un accomplissement très positif. Et je voudrais aussi revenir en arrière et dire que je suis complètement d'accord. Avri en a parlé. Toutes les parties prenantes ont un rôle différent. Il y a dans des domaines, les gouvernements ont un rôle plus important. Il y a donc des couches différentes de l'Internet. Par exemple, la propriété intellectuelle, oui, il y a un aspect territorial mais c'est un de nos défis. L'Internet n'est pas territorial. Et il faut appliquer les règlements, pas des règlements qui ont été fondés dans les années 1900, au 19e siècle. Ces règlements n'ont plus lieu maintenant. Toutes les parties prenantes devraient avoir une voix quand il s'agit de décider des nouvelles législations sur le contenu de l'Internet. Ceci ne devrait pas avoir un impact négatif sur l'Internet. Donc, construire sur ce que l'on a déjà accompli jusqu'à présent au niveau de notre discussion sur la gouvernance de l'Internet, encore une fois, c'est l'approche multipartite, des discussions entre toutes les parties. Et quand il s'agit de la propriété intellectuelle, ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent dominé par les propriétaires de contenu, par les utilisateurs. Les utilisateurs n'ont pas la parole. Et il faut faire très attention, il faut être prudent avec ces problèmes et cela devrait être géré d'une façon multipartite. Olga, oui, pouvez-nous nous dire qui vous êtes? Je m'appelle Grace de Vega. J'aime beaucoup ce que vous avez dit à propos des parties prenantes et que partie prenante, vous pouvez définir les rôles des autres et le fait que nous devrions considérer que chaque partie soit égale dans tous les processus, dans le processus. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec vous. C'est débattable. Nous avons parlé beaucoup de ce système multipartite, du modèle multipartite. Je sais que c'est ce qui est requis de la gouvernance d'Internet parce que presque tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Et ma question donc est-ce qu'on peut continuer à parler de ce système multipartite? Est-ce qu'on peut s'assurer que les parties soient traitées également quand on ne discute pas du financement de la participation? Nous savons que la participation a toujours eu des implications de coûts. C'est égal si ce sont des réunions face à face ou des discussions en ligne. Certains d'entre nous, des fois, des gens qui viennent du monde en voie de développement, ont des problèmes de connexion. Donc, ma question, je suis désolée. Nous savons aussi que lorsque nous participons, le fait que vous pouvez articuler votre position, d'être capable de faire des propositions. Vous voyez les gens face à face, cela crée donc une relation et les gens commencent à vous comprendre. Donc, ma question, est-ce qu'on peut continuer à parler de ce modèle multipartite sans avoir le besoin de discuter et de voir si nous avons besoin d'un modèle multipartite de participation financière? Olga, oui, je pense que c'est une question apte pour Chanatai et pour les efforts GF. Je dois vous dire que notez que la question comment est-ce que vous assurez qu'un dialogue international prend en compte le système multipartite dans non seulement dans l'ICANN mais dans tous les dialogues internationaux. Et c'est un problème très important. Les Nations Unies ont essayé tellement de manières variées pour assurer cela de façon financière et autre. Est-ce qu'on ait une position IGF là-dessus? Shangatai, oui, nous croyons la valeur d'une rencontre face à face. Nous essayons d'avoir de la participation à distance, que ce soit à des conférences vidéo ou à travers les transcriptions, mais cela ne peut pas remplacer la vraie expérience, la valeur de ce qu'on obtient d'une communication face à face. Donc, le financement pour cela, c'est un problème pérenne. Nous avons tout essayé. Tous les ans, nous travaillons ensemble avec d'autres organisations pour essayer d'aider à faire venir les gens. ICANN même des sponsors, sponsorise des gens pour qu'ils viennent, IGF aussi. Nous avons essayé plusieurs modèles pour essayer de voir qu'il puisse y avoir des donations externes pour que nous puissions avoir du financement, pour que les personnes, surtout des pays en voie de développement, puissent venir aux rencontres, aux réunions IGF. Oui. Olga, merci. Shangatai, je pense que Avri avait un autre commentaire. Avri Doria, oui, j'ai un commentaire rapide. C'est incroyablement vrai que le financement est... D'ailleurs, une autre chose qui toujours était un regret, c'est ce qui devrait être mettre sur l'emploi du temps. Les gens se promènent avec leur petit agenda et cet agenda avait été distribué et il s'agissait de la gouvernance Internet et des modèles de financement. Et on passe tout notre temps quand on passe de cet agenda, l'agenda de Tunis. On décrit l'agenda de Tunis, mais ne parle pas des modèles de financement qui ont été si difficiles à négocier. C'est donc critique que nous continuons à soulever le sujet. Nous ne pouvons pas parler de la gouvernance d'Internet sans résoudre nos problèmes financiers. Mais nous n'accomplirons pas le modèle multipartite complet avant de pouvoir résoudre ce problème. Olga, prochaine question. Je m'appelle Liebold, je travaille à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Et nous avons, comme vous savez, 47 États et vous avez parlé de des organisations telles que celle-là plus tôt. Nous avons eu plusieurs conventions, plusieurs réunions. Je veux parler d'une position égale pour tout le monde, pour tous les acteurs de l'Internet, position égale. Nous sommes une organisation très multipartite, plus multipartite que beaucoup d'autres organisations. Les gouvernements ont des obligations et des obligations juridiques. Ils ont un rôle et ils doivent être responsables pour leur rôle. Quand on parle d'autres acteurs, vous avez parlé de l'inclusion, des rôles, de leur capacité de faire les choses. C'est très important. Mais quelles sont leurs régulations, leurs obligations et leurs engagements? Et on ne discute pas cela. Donc, par exemple, maintenant, nous voyons à travers les Nations Unies, par exemple, avec business et les droits de l'homme. Ce sont des bons sujets. Nous avons des principes, nous voyons de plus en plus de discussions sur ce que sont les responsabilités du business dans la protection des droits de l'homme. Mais nous parlons de cela dans d'autres contextes. On doit se rappeler que les gouvernements ont des responsabilités. Il y a des révisions faites par les Nations Unies où ils sont responsables pour des mécanismes qu'ils mettent en place. Et puis, ils ont des rôles, des responsabilités. Et nous devrions discuter cela à certains moments, pas forcément maintenant, mais quelles sont les obligations et les responsabilités de parties prenantes? Nous voyons tous ces panels qui discutent des choses, mais quels sont donc les rôles et les responsabilités comme ceux que ont les gouvernements? Olga, oui, Andrés. C'était une question pour un autre panel ou peut-être un grand autre forum. Mais pour clarifier les choses, il y a plusieurs parties prenantes qui sont très bien définies, avec des obligations très définies, bien définies. Telles que la communauté technique qui est l'organisation qui a un rôle opérationnel dans les politiques, dans l'administration des ressources. Nous n'avons pas une constitution, nous n'avons pas été créés par un traité, mais nous avons des fonctions très bien définies, des obligations très bien définies. Ce serait difficile de décrire les autres parties prenantes, mais quand les gouvernements, c'est un petit peu ennuyeux, c'est facile. Il faut comprendre leurs états d'esprit. Ils pensent qu'ils ont des représentations souveraines. Ils ont des citoyens, personne n'a les mêmes droits. Personne devrait... Ils sont ce qu'ils sont. Quand je pense au rôle de notre organisation, nous avons vraiment des régulations très définies. Si nous ne rencontrons pas ces obligations, les conséquences sont Je ne sais pas, c'est difficile de comparer, mais je ne pense pas que les autres parties prenantes sont des participants à... Je ne peux pas parler de la part des communautés techniques, mais en tant que membre d'une de ces organisations, je crois que leur rôle, les obligations sont très bien définies. C'est ce que j'avais à dire. Olga, merci Andrés. Je te jure. Un autre commentaire de la part de Peter. Ensuite, nous reviendrons sur la question et nous passerons aux personnes qui ont des questions à poser sur la liste. Peter, je ne vois pas. Lee, ah si, Lee, merci pour votre question. Comme il l'a été dit, cela devrait être adressé à un plus grand, devant un plus grand forum, mais à la fin, je vois que troisième groupe de travail dans les CSTD qui pourrait être formé pour résoudre ce problème. Paul Foudy, je regardais au site de l'IGF, la description qu'ils font d'eux-mêmes. L'IGF facilite une compréhension commune et pour les opportunités Internet et adresse le risque des défis qui peuvent être soulevés. Cela est clairement un défi et un risque. Comme vous voyez, on doit se donner assez de temps pour regarder toutes les opportunités. Et 18 mois n'est pas assez de, ne représente pas assez de temps. Donc, mettons-nous d'accord que nous allons re-signer le NCIA l'année prochaine, je crois, en septembre 2015. Et que nous ne fassions pas les choses d'une façon rapide, que nous pouvions produire ainsi. Nous n'aurons pas des résultats qui ne sont pas positifs pour tout le monde. Karel Douglas, je suis un boursier. Je suis un petit peu nouveau à la gouvernance de l'Internet. Je suis de Trinité et Tobago. Ma question est... je voudrais voir quand il s'agit de Liana, la décision du NTA de transférer les fonctions de Liana avec les problèmes de Snowden. Vous avez... ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivée, c'est que ce sont les problèmes qui ne sont pas sur la table. En tant que nouveau venu, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres problèmes comme mon ami me l'a dit tout à l'heure, sont des problèmes techniques. Moi, je suis du monde de développement. Il y a beaucoup d'autres problèmes, comme la liberté d'expression. Il y a d'autres problèmes dans d'autres pays. Est-ce que cela va être, disons, résumé seulement aux fonctions Yana et Snowden? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui vont être traités, des problèmes qui sont importants pour d'autres communautés? Alga, y a-t-il quelqu'un sur le panel? Est-ce que quelqu'un pourrait parler d'autres problèmes significatifs qui pourraient être soulevés dans d'autres réunions cette année qui ne sont pas en liaison avec Yana ou Snowden?
Andrés, au micro, oui. L'élément clé, c'est le développement. Il y aura une conférence de l'UIT la semaine prochaine à Dubaï. Et les gouvernements vont être un acteur clé pour essayer d'aider l'Internet à se développer. L'Internet comme un outil de plus en plus important. Mais quoi qu'il en soit, notre communauté, notre organisation a un rôle important à jouer en termes d'adresse IP. Mais notre objectif principal en tant qu'organisation est d'aider, de contribuer au développement. Mais je crois qu'il s'agit là L'une des questions qu'il faudrait prendre en considération et pas uniquement dans les forats techniques. Olga au micro, merci. Question à distance. En fait, c'est plus un commentaire par Nishk Ashtonar de Digital Economy Alliance. Il veut soutenir le commentaire d'Avery en disant que pour parler des droits de l'homme, c'est le meilleur endroit pour le faire, c'est le Conseil des droits de l'homme qui est très actif sur les droits de l'homme et la liberté d'expression et d'opinion. Merci. Bien, avant d'y répondre, Olga au micro, je crois qu'il y a un autre commentaire de Shangatai sur d'autres questions qui ne sont pas forcément liées à l'IANA et qui vont surgir. Oui, vous dire que à l'ordre du jour de la réunion de l'IGF, il va y avoir plusieurs questions qui vont être traitées, certaines concernant les politiques, concernant l'accessibilité, la diffusion et l'utilisation des données, l'Internet en tant plutôt Internet et les droits de l'homme, et l'IGF et l'avenir de l'écosystème d'Internet. Donc ce sont des questions, autant de questions qui ne sont pas liées à l'IANA. Sam, vous vouliez intervenir? Sam, oui, on connaît tous le calendrier de 2014, calendrier très fourni. Il va y avoir une discussion sur la manière de gérer la gouvernance Internet. Donc non seulement on se penche sur des problèmes individuels, mais sur le développement de tout le système, comme on le sait avec Net Mondial. Merci. On va clore avec la réponse d'Avery à la dernière question très rapidement. Et avec tout le respect dû, je crois que les droits de l'homme, on doit en parler partout, dans les entreprises, dans la société civile. Ce serait magnifique d'en parler uniquement dans les organisations des droits de l'homme. On pourrait s'asseoir et peut-être que certains d'entre nous pourraient faire une belle déclaration. Ce serait superbe de pouvoir en parler uniquement au Conseil des droits de l'homme. Merci. Merci, Avery. Pour clore ce panel, j'aimerais remercier Nigel Hickson et son équipe et dire que Nigel a énormément travaillé pour, ainsi que Mandy Craver, qui est là, qui sont toujours disponibles pour répondre à vos questions, vous orienter, vous donner les informations dont vous aurez besoin pour participer activement à cette année qui va être très chargée. Donc, je remercie de tout cœur ces deux personnes qui nous ont beaucoup aidés dans la préparation de cette réunion cet après-midi. Nigel au micro. Peut-être pourrais-je vous remercier pour votre rôle de modérateur. Merci aux membres du panel. Merci au public qui, vous l'aurez vu, le format de cette réunion a changé. À Londres, en juin, on va peut-être se concentrer sur les réunions plénipotentiaires et sur les questions qui, nous le savons, vont surgir d'ici juin. Mais si quelqu'un souhaite intervenir sur la gouvernance Internet, si vous pensez que on a oublié de mentionner tel ou tel problème ou question, faites-le nous savoir. Merci.